À l'heure des IA de plus en plus performantes, capables d'assister dans la recherche de failles complexes ou de comprendre un projet complexe, que peut-on faire ? Comment peut-on encore préparer une compétition de hacking genre Capture the Flag à l'heure des IA ? Nous en parlons avec Cryptax, fondatrice de Phawn CTF, une compétition axée sur le hacking éthique d'objets connectés.
CPU, carré, petit, utile.
Cryptax, bonjour.
Bonjour.
Combien de fois êtes-vous déjà venu à la THCon ?
Je crois que c'est la troisième fois. J'hésite entre troisième et quatrième. Je suis déjà venu au moins deux fois. Mais il y a une fois où c'était en virtuel à l'époque. Alors ça compte à moitié.
Voilà. Ça devait être en 2020, si je me trompe.
Oui, je crois.
Ouais. Grand moment justement de hacking par rapport à l'impossibilité de sortir. Alors, pour commencer, on va faire le basique. Qu'est-ce que le CTF, le Capture the Flag ?
Alors, ouais, c'est un jeu informatique. Le but du jeu, on a plein d'énigmes informatiques et il faut arriver à retrouver une information qui est cachée, qu'on appelle le flag, le drapeau, qui est généralement une chaîne de caractères qui est cachée quelque part, dans un binaire, dans un flux de réseau, dans un petit peu ce qu'on peut avoir. Et pour y arriver, il faut un certain cheminement logique, et jusqu'à trouver cette information-là. On ne devine pas, on ne peut pas deviner le flag, c'est fait exprès.
Ou alors, c'est vraiment un cas d'une improbabilité telle que même le guide du retard galactique n'oserait pas. C'est quoi l'affiliation avec les FPS comme Call of Duty ou Overwatch ? C'est la violence pure ?
Pour les CTF ? Il y a souvent dans les CTF des parties à l'intérieur où ils ont refait carrément des jeux. En fait, et on joue à l'intérieur. Je me rappelle d'un notamment qui était extraordinaire où ils avaient refait un jeu. Alors je sais plus, c'était un jeu un peu vieux. Ça aurait pu être par exemple du Doom ou un truc comme ça. Ils avaient mis sur un des murs du jeu le flag. En fait, donc il fallait se balader dans le jeu pour retrouver le flag qui était caché dans une salle. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle les flags ou les challenges un petit peu MISC, c'est-à-dire qui sont pas catégorisables de manière habituelle, quoi. Voilà.
Je tiens à signaler d'ailleurs que donc pour la 10e édition de la THCon, on a une grosse surprise, c'est qu'on a eu un badge électronique à essayer de pirater. C'est fait exprès pour être piraté. Le but du jeu, c'est justement de faire installer Doom dessus. À quoi sert un CTF, sinon à parquer des jeunes futurs délinquants à capuche et les sociabiliser dans les salons de commerciaux en cybersécurité ?
Ouais, alors ça c'est vraiment très cliché quand même.
Non, c'est vécu en octobre, on a eu le CBC à Toulouse, le Cybersecurity Conference, c'était un peu ça.
Le but du jeu, c'est vraiment d'apprendre. On apprend vraiment des techniques qu'on peut réutiliser. Moi, je suis en vie professionnelle, donc qu'on peut réutiliser dans les métiers derrière. Donc ça, c'est bien. Après, il y a un côté qui est vraiment un petit peu fun, un peu compétition, arriver à hacker un petit peu mieux que le voisin. Il y a aussi cet aspect-là. Donc le but du jeu, comme souvent on passe du temps, on va dire, enfermé dans une salle, le temps de trouver les challenges, c'est que à la fois on apprenne et à la fois on passe un bon moment, quoi. C'est un petit peu, ça lie un peu les deux.
Voir à échanger avec des parfaits inconnus à gauche à droite pour s'échanger les tricks.
Oui, y a plein de discussions qui se font comme ça, où on se partage des astuces, etc.
Est-ce que le but social en fait du CTF, c'est pas un petit peu d'exploser le trop-plein d'énergie du chaton très très joueur ou pour dérouiller un vieux matou qui s'en croûtait en ESN ?
Je sais pas trop.
Quelle est la typologie en fait, tout simplement ? L'âge moyen, c'est des débutants, c'est des vieux aguerris, c'est des gens qui sont encore dans une école ou des vieux de 50 ans, 60 ans qui se rappellent un petit peu les souvenirs de quand ils essayaient de pomper Discret 10 de Canal+.
Alors, je pense que la majorité, une grosse proportion, c'est des étudiants. Ou juste post-étudiant, c'est quand même pas forcément la majorité. Par exemple, sur Phawn, le CTF là qu'on organise, c'est moins de la moitié en fait qui est étudiant et donc plus de la moitié sont en activité. Et après, sur les âges, ça va un peu varier. Il y a moins de plus âgés, mais il y en a quand même significativement. À mon sens, à moi, finalement, l'âge le plus compliqué pour venir jouer, c'est ceux des jeunes parents. C'est sûr que si le lendemain matin, on a un petit de 2-3 ans qui déborde d'énergie et qu'on a passé la nuit à faire du CTF, c'est compliqué, quoi.
Alors justement, avant que tu aies créé ton propre CTF, donc Faun, je tiens à préciser que c'est au propos de l'IoT, et on va y revenir tout à l'heure. Toi-même, tu as participé à combien de CTF, si tu as tenu le compte, si tu as ton mur de trophée quelque part?
Alors, je sais plus trop, je l'ai noté quelque part, donc je pourrais retourner l'information, mais je dirais facilement une vingtaine de CTF où j'ai participé. Et hier, là, à THCon, il y en avait un qui parlait d'un CTF qui était très vieux, là, qui était, je crois que ça s'appelait Securitech. Donc, celui-là, effectivement, j'y avais participé, c'était, je crois, un des premiers auquel j'avais participé.
Je crois que c'était en 2003, un truc comme ça.
Ouais. Donc il y a pas mal de temps. Et après, il y a plein d'autres fois où j'en ai fait d'autres. Ils sont tous des types un petit peu variés, plus ou moins difficiles, plus ou moins du monde. Voilà. J'en ai fait une bonne vingtaine quand même. Ouais.
Et donc, Faun, qui est donc justement le CTF que tu fais, d'après ce que j'ai compris, c'est une thématique IoT. Comment c'est venu? C'était un besoin industriel? C'était une envie qui t'était propre? Ou quelqu'un qui a dit, ce serait bien qu'on organise quelque chose et ça nous changerait peut-être du concours de galette bretonne?
Alors, en fait, moi, je fais de la recherche sur les virus qui sont soit sur téléphone mobile, donc ça rentrait plus ou moins dans le cadre IoT, et aussi sur l'IoT, donc ça s'inscrivait bien par rapport à mon travail, en fait. Et après, je trouvais que on n'avait pas à l'époque beaucoup de CTF, donc là moi c'est sur la région sud-est, proche de Sophia Antipolis, donc ça, voilà, ça permettait d'avoir quelque chose un peu de local, quelque chose qui n'existait pas, parce que pour l'instant il y avait beaucoup des CTF qui étaient très orientés web, pawn, etc. Là, avoir quelque chose qui soit vraiment spécifique aux objets connectés, c'était nouveau, donc c'était sympa.
Alors, on a eu hier justement l'organisateur de Braze CTF, on a compris, c'était en Bretagne, en conférence sur le plateau de la THCon. Est-ce que ça discute justement entre organisateurs de CTF ou non? Au contraire, on va garder dans notre côté notre petite tambouille au cas où il y ait une fuite sur la manière justement de pouvoir passer l'étape numéro 4 qui est si cruciale.
Non, on discute entre nous. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, je dirais il y a un an, on a fait une sorte de Discord sur tous les organisateurs, alors pas que de CTF, de conférences, mais vraiment pour les organisateurs en eux-mêmes. C'est-à-dire, on parle pas vraiment des spécificités, on parle jamais des spécificités. Par exemple des challenges de CTF, de tel truc, tel, etc. Mais plutôt sur l'organisation, quelle infrastructure on va mettre, comment est-ce qu'on fait si le réseau tombe, enfin toutes les petites emmerdes d'organisation qu'on peut avoir, quoi. Et ça, on en parle et on se partage les trucs qui marchent bien assez librement, ça c'est très sympa. Ouais.
Et pourquoi pas dire, Maëlle, peut pas venir, est-ce que ça te dirait de venir tester justement mon Capture the Flag?
Alors oui, certaines fois ils peuvent venir. Après, ce qu'il y a, c'est que les organisateurs de CTF sont souvent bien pris. Donc c'est vrai que si on leur demande en plus de venir à tous les autres CTF qui...
Pas de venir, de tester tout simplement un Capture the Flag avant de le faire vraiment pour avoir un regard indépendant de ce côté-là.
Oui, alors après, nous, on a nos propres testeurs. Parmi certains organisateurs de Faun ou parmi d'autres personnes qu'on connaît, etc. Chacun prend, je pense, les testeurs parmi, on sait, les compétences qu'ils ont spécifiques. C'est vrai que, par exemple, sur l'IoT, c'est quand même très particulier. Donc, réciproquement, il y a une fois, j'avais un challenge OSINT à faire tester. Et nous, on n'avait pas vraiment de compétences suffisamment là-dedans. J'ai demandé justement à quelqu'un de Brest CTF, est-ce que tu connais quelqu'un, machin truc, pour tester mon challenge, quoi.
Ouais, si on précise, c'est tout simplement, c'est du renseignement en source ouverte, donc ce que l'on peut trouver dans l'annuaire pour avoir le numéro de téléphone du standard de l'Élysée. Vous testez donc justement les épreuves en humain versus IA. Est-ce que il y a vraiment une progression ces derniers temps sur l'IA aussi spectaculaire que ce que l'on a vu justement dans la programmation quand l'IA, on le met sur une problématique?
Ouais, on voit vraiment une amélioration. Je dirais en 2023, c'était un petit peu le début. On commençait à avoir des challenges quand même, IA, etc. Mais c'était uniquement du chat direct, etc. 2024, ça s'est encore amélioré. En 2025, c'était devenu tellement massif. Là, je me rappelle, j'étais à NorthSec CTF. Et en fait, je me balade, je sais pas, au milieu des joueurs et je voyais pratiquement un onglet IA chez tout le monde, quoi. Tout le monde l'utilisait, etc. Et là, maintenant, en 2026, c'est pire que ça, entre guillemets. C'est, en plus, tout le monde a des agents, a des skills. Enfin, c'est un setup un peu préparé. Donc oui, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup amélioré, quoi.
C'est en général l'usage de l'IA, c'est pour pouvoir, parce qu'on a déjà une idée et qu'il faut faire une tâche ultra répétitive, autant la confier à une IA, ou on n'a pas du tout d'idée, donc on lui dit, ben écoute, voici la problématique, ce que j'ai, etc. Extrais-moi justement la chaîne de caractères qui ressemble à tel pattern.
Alors, la manière raisonnable de le faire, ce serait la première, c'est effectivement de dire, ah ben voilà, j'ai un peu ça, ou là, ça va me prendre du temps, est-ce que tu peux faire telle partie? Ça, ce serait l'usage raisonnable, je pense, de l'IA. Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on voit. En fait, comme en CTF, on est beaucoup pris par le temps, et que c'est quand même compétitif à l'heure actuelle, bah, les gens ont tendance à mettre directement, balancer tous les énoncés dans l'IA, en plusieurs IA en parallèle, de le faire travailler et puis pendant ce temps-là, éventuellement de réfléchir vraiment eux-mêmes à certains autres challenges un petit peu compliqués, en espérant récupérer les flags des autres, quoi.
Ou faire une micro-sieste, puisque des fois ça dure 24 heures, 48 heures non-stop, dans un endroit qu'on connaît pas et tout le reste. Cryptax, on va voir si vous êtes vraiment organisatrice de CTF. C'était quoi la réponse à la sixième question? J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de canard et de carotte.
De canard et de carotte?
Ouais. D'accord, ok. Est-ce que, comme pour les escape games, il faut parfois calmer l'ardeur de certains trop enthousiastes qui sont prêts à défoncer les murs de placo à la grosse masse?
Alors ça doit dépendre des CTF. Je pense qu'il y a certains CTF où il doit falloir effectivement calmer les ardeurs. Nous, on n'a jamais eu de problème de débordement de ce genre-là. Mais plus on est nombreux et plus il y a du monde, plus il y a potentiellement quelques personnes un peu à canaliser, quoi. Voilà. Donc, oui.
Donc, ça veut dire qu'il faut un service d'ordre quand même derrière.
Alors, nous, par exemple, là où on a l'université qui nous demande un vigile à l'entrée, rien que pour la sécurité. C'est voilà. Mais ça paraît normal aussi. C'est une question d'assurance pour eux. Voilà, quoi. Après, nous, on n'a pas eu de problème. Voilà.
Est-ce qu'on impose des limites, comme par exemple ce qui se passe à la DEFCON de Las Vegas, où on dit ce qui est la telle pièce et celle des journalistes, on n'y touche absolument pas, c'est pas là où est la réponse?
Alors oui, il y a toujours des limites dans tous les CTF. Par exemple, s'attaquer au scoreboard, s'attaquer à certaines choses comme ça. Normalement, ça dépend, c'est souvent marqué hein, dans les règles, c'est marqué hors périmètre. Là aussi spécifiquement, nous par exemple, pour Faune, on spécifie quelles sont les machines qui sont dans le périmètre et celles qui ne le sont pas. Tout ça pour éviter, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se met à attaquer une machine du réseau, par exemple de l'université, au final, c'est nous qui serons responsables. Faune pourra plus avoir lieu et ça sera en fait la catastrophe. Donc, faut être bien clair là-dessus pour que les gens ils sachent, ben, ça je peux attaquer, il n'y a pas de risque, c'est fait pour, ou ça je peux pas attaquer et si j'attaque, ben, les gens se retourneront peut-être contre moi, quoi. Enfin, voilà, si ça se passe mal, quoi. Voilà.
J'ai que comprendre quand même que dans le genre serious gaming de CTF, il y a du serious gaming qui est carrément organisé par l'armée et où là, ben, c'est carrément, on se retrouve avec des gens qui sont masqués sur la tête et tout ça pour que des civils puissent participer, mais pour pas qu'on puisse les reconnaître puisqu'ils sont dans les domaines ultra sensibles. C'est une légende ou c'est pas une légende?
Je pense que c'est pas une légende, même si j'ai pas exactement participé à ce genre de CTF là. Je préfère des trucs un peu plus standards, un petit peu plus calmes et qui voilà, qui est moins prise de tête, où justement les gens peuvent parler librement sans problème, quoi.
Ça vous amuserait pas d'essayer de désimloquer un F-35? C'est pour un pays ami. Est-ce qu'il y a encore du fun si l'IA résout à la place ces énigmes?
La question est bonne. En fait, je pense que ça dépend toujours de à quel point elle résout les énigmes. Si elle résout vraiment de bout en bout et qu'on n'a rien fait, il n'y a aucun fun. Enfin, pour moi, il n'y a aucun fun. Ça dépend peut-être des personnes. Après, si on est un peu obligé de la guider, si on l'utilise juste un peu en termes de documentation ou pour écrire un code qui aurait été un peu longuet à écrire, etc., ou pour débugger un de ces codes, parce que ça, ça arrivait souvent en CTF avant. On était très proche du flag, on écrivait un code, et puis bah, ça ne marchait pas. Voilà. Et ben, on n'avait pas le flag à la fin. C'est frustrant, alors que c'était une erreur de point-virgule à tel endroit. Bon, c'est un peu dommage. D'une certaine manière, on méritait presque le flag. Voilà. Bon, de ce côté-là, l'IA est utile. Voilà.
Ou pour retranscrire, puisque là, ce qu'on a vu aussi sur une résolution de CTF, où c'était une bande passante très particulière dans un fichier audio dans lequel il y avait une espèce de code binaire qui était injecté et tout. Là, le rentrer à la main, c'est peut-être plus simple avec une IA. Alors, je ne vais pas complètement spoiler la conférence que tu viens de donner justement tout à l'heure, où en fait vous étiez allé jusqu'à faire de l'injection de prompt au cas où une IA participe. Est-ce que ça fait finalement aussi partie du jeu de demander aux IA d'agir responsablement sur ce type de jeu et d'avoir justement un comportement éthique vis-à-vis de l'humain qui demande d'y participer?
Bah, en fait, personnellement, je trouve que ça serait pas mal, oui, mais à mon avis, la demande, elle va au-delà des CTF, ça va aussi sur l'éducation, dans les écoles, dans l'apprentissage. Parce que là, en l'occurrence, c'était sur un challenge qui était facile. Et j'aurais eu un mode, mais bon, ça va pas exister, hein, je parle vraiment de rêve, mais il y aurait un mode où on pourrait dire à l'IA, écoute, là, le but du jeu, c'est qu'ils apprennent, donc tu peux leur les aider un petit peu, mais tu leur mâches pas trop le travail. Ça serait génial d'avoir ça. Mais il n'y a pas.
Pas encore totalement, de manière totalement standardisée, ou au contraire, il y en a qui ignorent complètement, puisque ils commencent à se protéger aussi à ce type, justement, d'injection. Alors, puisqu'on est dans une université, l'université Paul Sabatier, et j'ai des grands souvenirs de ça, est-ce que pour ne pas fausser la sincérité dans ce genre d'épreuve, interdire les calculatrices, justement, comme au lycée et à la fac, et imposer la Casio AFX 82?
Ouais.
Ah, le sourire qui rappelle quelque chose avec cette référence.
Je la vois très bien, cette calculatrice. Mais moi, je suis passée juste avant, justement, cette période où il y a eu des choses un peu bannies, parce que les calculettes étaient puissantes, mais pas suffisamment pour que ça soit vraiment game changer, etc. Voilà, je ne sais plus qui me demandait, mais quand j'ai passé le bac, j'avais une calculatrice où il y avait 192 pas. C'est pas des octets, donc ça comptait en pas. C'était pas grand-chose, hein, ça aidait un petit peu, mais je pense que je peux clamer quand même que j'ai eu le bac par moi-même et pas par la calculatrice, là.
Forcément. À essayer de piéger justement un peu les IA ou leur donner des instructions et tout ça, est-ce qu'on ne risque pas d'introduire de la confusion qui peut piéger certains humains et qui pourrait justement créer une sorte de discrimination sans le vouloir auprès de personnes neurodivergentes?
Oui, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est un stratagème là où on s'était dit, tiens, on va injecter un prompt un petit peu pour faire partir l'IA dans une autre direction. Mais quelqu'un d'autre aurait pu le voir et se dire, finalement, c'est pas idiot, pourquoi est-ce que je regarderais pas à cet endroit-là? Et donc, c'est pas une utilisation malicieuse. Donc, c'était un essai. On est tous, je pense que tous les organisateurs de CTF, on est en train d'essayer différentes solutions. C'est un essai, c'est pas parfait. Et on cherche vraiment, là.
Avec la nouvelle version de Claude, on voit de plus en plus d'améliorations sur la recherche de failles techniques, à tel point que pas mal d'entreprises, de projets open source, de grandes fondations suppriment les bug bounties. Est-ce que c'est pas un signe avant-coureur de la fin des lots dans les CTF?
Oui, c'est possible. La grosse différence, c'est, je dirais, les LLM depuis quelques mois, hein, parce que tout va très vite. Ils sont un petit peu améliorés, mais pas tant que ça. Mais par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est tout ce qui est skills, agents. Du coup, ça augmente énormément les performances des LLM. Et c'est ça qu'on voit là sur les vulnérabilités, notamment, etc.
Et faut expliquer rapidement. Donc, les skills, c'est les agents, c'est les espèces de plugins qui se rajoutent. C'est-à-dire, on rajoute littéralement des fonctions cognitives, théoriquement, à ces moteurs LLM.
Ouais, tout à fait. Oui, pour les CTF, je pense, en tout cas, on va un petit peu tous, pour l'instant, en 2026 en France, sur, en tout cas, baisser les lots, parce que, faut que ça soit en rapport avec l'effort qui a été fourni. Après, on va voir comment ça se passe pour 2027, etc. Là, on discute beaucoup tous entre nous, et toute personne qui a une bonne idée, enfin, on est tous vraiment à l'écoute, hein, vraiment là-dessus, pour la réimplémenter ailleurs, quoi.
Pour un novice qui souhaite découvrir ce que c'est qu'un CTF dans un contexte hacker, qu'est-ce que tu lui conseillerais ?
Je lui conseille vraiment de commencer déjà dans certains CTF avec les challenges qui sont faciles. Et ceux qui sont, si c'est marqué, ceux qui sont marqués facile, de effectivement pas se servir de l'IA ou vraiment très peu, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qu'il connaît pas, par exemple, je sais pas, le challenge il est sur le signal radio, bon bah là il peut utiliser le LM pour demander bah ouais un peu comment ça marche, je connais pas trop, etc., pour se dégrossir un peu le terrain. Mais il faut pas que ça aille au-delà de ça, c'est-à-dire faut que ça lui serve de recherche documentaire. Après il faut qu'il essaye de trouver par lui-même. Parce que s'il n'arrive pas à trouver par lui-même, il ne pourra jamais après faire un challenge un peu plus intéressant, avec ou sans IA, quoi.
Et l'idée, c'est avant tout d'apprendre.
Ah oui, là, si on n'a pas des débutants qui démarrent en CTF, quoi qu'il arrive, ça veut dire que le CTF est mort dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc il faut absolument arriver à faire débuter les gens. Hein.
Et on aura une génération perdue qui ne comprendra même plus comment déplanter la serrure de la maison. Critax, merci beaucoup. Joyeux THCon, très bon retour de votre côté. Et au plaisir de vous lire. On aura tous les liens justement de votre conférence et tout ça sur la page de l'émission.
Merci beaucoup à vous.